Agression au 19e, le Figaro révèle ce matin que le jeune homme, le jeune juif qui a été tabassé, mais ce n'est pas un acte simplement antisémite, c'est quelqu'un qui était connu des services de police, c'est sur le site du Figaro. Il avait été placé, je cite l'article du Figaro, selon nos informations, ce jeune homme qui est donc ce jeune homme juif qui a été tabassé, avait été placé en garde à vue en compagnie de 3 camarades après les incidents à caractère intercommunautaire avec un autre groupe de jeunes d'origine maghrébine. Lui et ses camarades avaient été trouvés porteurs de poings américains et autres projectiles de défense. Il avait été placé en garde à vue pour coups et blessures volontaires avec armes par destination.
Bonjour, bonjour. Un petit article paru dans le Canard Enchaîné de cette semaine qui résume très très bien mon sentiment et j'espère d'un bon nombre d'entre nous. Alors je lis. Un incident près de chez vous. Un incident. C'est curieux chez Sarko cette façon de s'asseoir sur les résultats de certains votes démocratiques. Le locataire de l'Élysée a ainsi qualifié le nom de l'Irlande à son traité européen simplifié l'incident irlandais. Quel joli terme. Dans la bouche de celui qui a déjà balayé d'un revers de main le nom français au référendum européen de 2005, ce n'est guère étonnant. Ce qui l'est plus, en revanche, c'est que depuis un an, Sarko passe son temps à justifier ses réformes en rappelant qu'il a une grande légitimité fort des 53% de Français qui l'ont élu. Or, 53%, c'est justement le score du non-irlandais. Alors, de deux choses. L'une, soit un vote à 53%, c'est un triomphe, et le non-irlandais en est un, soit c'est un incident. Et l'élection de Sarko en est un. Yes or no? Voilà. À bientôt.
Bonjour, c'est Manu de Villejuif. J'appelais pour réagir sur l'émission sur les sans-papiers. Il y en a marre qu'on arrête des gens dans ce pays simplement parce qu'ils n'ont pas un bout de papier dans la poche. Il y en a marre. On nous fait tout un tas de discours sur l'occupation, Guimauquet, etc. Mais c'est aujourd'hui que ça se passe. On arrête des gens parce que pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais parce qu'ils sont quelque chose. Faut arrêter ça. Il faut que tout le monde prenne conscience qu'on fait des rafles aujourd'hui pour arrêter des gens, des enfants, et qu'on les traite comme des chiens. Il y en a marre. Voilà.
Eh bien, bonjour Daniel. Je confirme, je suis en train d'écouter en podcast l'émission de ce soir. Je te confirme, il faut investir dans les prisons. D'ailleurs, c'est ce que fait notre ami Bouygues à Nantes. Il va nous construire une belle prison. Alors, il va se charger de la construction, l'entretien, la maintenance des locaux. Il assurera le service de restauration des détenus, du personnel, l'hôtellerie, la buanderie, l'accueil des familles, la participation à la formation professionnelle et au travail des détenus. Ouais, il faut mieux déplacer les esclaves. On l'a toujours dit. Ceci dit, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'était Yannick de Nantes.
Oui, bonjour Johan, sympathisant socialiste et un petit peu outré par l'information que je viens de recevoir là. Donc on est le vendredi 20 juin, je viens d'avoir une information qui est de votre émission. Un auditeur qui parlait en fin de compte par rapport au délai de rétention qui a été voté par le Parlement européen, que Harlem Désir et Michel Rocard auraient participé et auraient voté pour cette décision. En fin de compte, donc j'ai appelé, parce que j'étais quand même assez choqué, j'ai appelé Assol Ferrino, et qui m'a donné le numéro de téléphone de la permanence de Karim Désir. Et en fin de compte, Harlem Désir, pardon. Et en fin de compte, il s'avère qu'ils ont voté pour, contre plutôt. Donc je comprends pas trop l'intérêt de l'auditeur d'avoir balancé une fausse information. Et il paraît qu'on peut consulter directement toute la liste des gens qui ont voté pour ou contre directement sur le site du Parlement européen. Dont acte, vérifier les informations. Merci, au revoir.
Et ben voilà, pan sur le bec, bravo. Effectivement, ce message était un message erroné d'un auditeur qui nous a fait croire que Harlem Désir et Rocard avaient voté pour cette fameuse directive et dite du retour, dite également de la honte. Et ben, renseignement pris, effectivement, ils ont voté contre. Voilà, aujourd'hui, on va passer cette heure au poste, mais au poste de police, ouais, poste de police. Aussitôt, on voit la castagne, les histoires,
drames, les tensions,
les drames, les feuilletons, etc. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qui se passe exactement dans un commissariat ordinaire, dans la vie ordinaire d'un flic ordinaire, dans un commissariat ordinaire? Eh bien, c'est les questions qu'on s'est posées et on va essayer d'y répondre en partie, bien sûr, avec Pascal Pascariello, qui a passé presque 2 semaines dans un commissariat, dans le commissariat du 19e arrondissement de Paris, rue Éric Satie. Je ne sais pas si Éric Satie serait ravi de savoir qu'il a une rue à son nom dans laquelle il y a un commissariat de police. Pourquoi pas d'ailleurs. Je ne sais pas si les flics du commissariat connaissent la musique d'Éric Satie, peu importe. Mais c'est là qu'on va passer cette première heure dans ce quotidien. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les keufs, les bleus, les cognes, les schmitts, les poulets, il n'y a pas beaucoup de tendresse dans tous ces noms d'oiseaux, la matraque, la bavure, le coup tordu, la corruption, l'impunité, c'est plutôt ce qui vient à l'esprit, et il est vrai qu'il y en a des casseroles accrochées au mot police, jusqu'au jour où on a l'occasion d'éprouver un certain soulagement en les voyant arriver, même si l'on n'est ni veuve ni orphelin. Cette ambiguïté dans les sentiments qui naissent lorsqu'on évoque le mot police, que nous allons nous balader à partir d'aujourd'hui dans le commissariat et hors du commissariat, dans la vie des flics ordinaires, d'un commissariat ordinaire. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. Si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Brice Hortefeu signale avec enthousiasme l'augmentation du nombre de départs volontaires d'immigrés, flatteur de l'idée qu'ils sont volontés, c'est-à-dire de l'exercice de la liberté, c'est-à-dire c'est agir sous le régime de la terreur, c'est-à-dire pour ne pas avoir à se jeter par la fenêtre du 6e étage, eh bien nous avons la volonté, la liberté de fuir ce pays qu'est la France.
Oui, bonjour, je suis Chantal Gicot. Donc voilà, je lance un appel à la mobilisation du public pour la défense de l'hôpital de Nantes. Vous pouvez nous rejoindre vendredi 27 juin à 8h devant la direction de l'hôpital immeuble Dorbrook pour manifester l'accès aux soins pour tous. La santé publique est en danger. Merci.
Police en voiture.
La vie des flics ordinaires dans un commissariat ordinaire, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet, avec Pascal Pascariello.
Flight number 2, arriving from New York.
Il est dehors.
Est-ce que ça pleure, un poisson? Comment s'aperçoit-on qu'un poisson pleure?
Ça, c'est le genre de question comme les shampoings de couleur, pourquoi ils font de la mousse blanche, tu vois. La même chose. Vous savez, vous?
Hein? Est-ce que les poissons pleurent, alors?
Il y a des petits moments comme ça où on pète les plombs.
Et là, il est quelle heure?
Là, il est 3h moins le quart. Et c'est calme. C'est très calme. C'est trop calme.
Brigade anti-criminalité, pourtant. Brigade anti-criminalité, la BAC. Oh là, ça c'est prestigieux, la BAC. Ça fait peur, la BAC. C'est fort, la BAC. C'est l'aventure, la BAC. Eh ben, bon, pas trop. Pour, en tous les cas, cette nuit-là, pour Sébastien, Christophe, Stéphane, c'est-à-dire brigadier, chef, brigadier, comme dit l'autre, sous-brigadier, eh ben, c'est une nuit calme. Une nuit très, très calme. Une nuit où on se dit qu'il y a beaucoup de cow-boys et pas assez d'indiens. Ça se passe souvent comme ça dans la vie ordinaire d'un flic ordinaire, d'un commissariat plutôt ordinaire, celui du 19e arrondissement, qui a accepté, sans barguigner, notre Pascal Pasquariello et son micro. Le but, montrer cette vie ordinaire, tant il est vrai que si on a la police qu'on mérite, la police, le policier, dans sa vie ordinaire, reflète la société, a quelque chose à dire et à voir sur la société qui l'entoure, et bien sûr, la société qui l'entoure a quelque chose à voir dans sa police. Effet de miroir. On a choisi, bien sûr, le tambour, comme ça, des gars qui sont dans une voiture et qui tournent toute la nuit. En attendant quoi ? En attendant quoi ? En attendant l'événement. Et ça, c'est très, très proche de la vie du reporter. Le reporter attend, bien sûr. Il ne vous fera entendre ou voir, ou il ne vous dira que l'événement. Mais en attendant l'événement, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à la pêche à la ligne. Sauf qu'il y a évidemment une tension. Cette fameuse tension, épuisante tension et pression. Pression sociale. Le flic ordinaire, le policier ordinaire est celui qui reçoit toutes ces tensions. Bien sûr qu'il est critiqué, rejeté, honni, mais il est aussi celui qui est confronté à la misère du monde, à la misère ordinaire, aux tensions, aux folies, un tas de petites choses. Un policier nous disait « Bof, moi je suis un éboueur de la société ». C'est avec ces gars-là et avec ce regard-là et cette confiance qui s'est installée entre nous, entre Pascal Pasquariello et eux en tout cas, que nous partons aujourd'hui et que nous nous retrouvons dans cette voiture, dans cette tournée de nuit de la BAC.
Vous avez 3 derrière, vous me dites?
Non, c'est là.
Seb, brigadier de police à la BAC 19 nuits.
Et vous?
Christophe, gardien de la paix, BAC 19 nuits.
Stéphane, sous-brigadier de police à la BAC 19 nuits.
Nous, notre mission, c'est surtout de faire du flagrant délit. Et comme on dit dans le jargon, c'est faire du saut dessus, c'est-à-dire de constater une infraction, une agression, un vol et d'interpeller en flagrant délit. Nous, c'est notre mission principale. Non,
avenue Jean Jaurès. Un individu qui a envoyé des pierres dans une vitrine de restaurant.
On arrive sur place, franchement. On n'a pas une description d'individu.
Là, il s'est passé quoi?
Oh, c'est qui a acheté les pierres? À quoi il ressemble, le gars?
C'est un arabe.
Un arabe? Chemise à rayures?
Oui.
Les yeux très clairs.
Chemise blanche à rayures
bleues.
Non,
c'est pas une chemise, c'est un pull à rayures.
Pull à rayures?
Ouais. Avec un jean.
Ouais. D'accord.
Expliquez-moi, Sébastien, on cherche un jeune homme, c'est ça?
Qui a cassé une vitre d'un restaurant. Donc là, on essaye de le rechercher, de le trouver. Le temps que ça se fasse, le temps qu'ils appellent 17, que ça répercute, t'as déjà 3 ou 4 minutes. Et en 3-4 minutes, le mec, il a le temps de faire 500-600 mètres. Et voilà la frustration du policier. Parce que là, on était vraiment à côté et
ça nous passe sous le nez.
Encore plus frustrant, c'est de savoir par la suite l'heure à laquelle l'appel a été émis, entre ce moment-là et le moment où ça passe sur les ondes. Des fois, il y a vraiment beaucoup, beaucoup trop de temps qui s'écoule et on se dit bah, que ça sert à rien d'y aller, quoi. C'est pénible, c'est pénible.
Je crois qu'il n'y a plus de délinquance là, avec des nuits calmes comme ça que je passe.
C'est votre avis, hein. Non, mais c'est vrai que c'est super calme. Hein. Non, ça s'est bien calmé sur l'arrondissement. Ça s'est bien calmé. Donc on est condamné à rester dans les rues, patrouillant en véhicule. Des fois, on pose la voiture, on patrouille pédestrement. Mais sinon, après, on est condamné à rouler, chercher et essayer de trouver.
tire la bourre, comme on dit, entre services. Ouais, le premier qui va arriver pour interpeller. Des fois, les nuits sont tellement calmes, ça arrive quand même qu'il y ait des nuits calmes. Il suffit qu'il y ait une affaire qui tombe et ça y est, une dizaine de véhicules sur place. Et c'est le premier qui va sortir du véhicule et qui va choper le gars pour faire l'arrestation. Bon. Déjà, il y a un gros problème, ça se voit entre par exemple Seine-Saint-Denis et Paris, où les collègues travaillent en Seine-Saint-Denis est très dur pour les collègues. Très très dur, parce qu'ils sont pas assez nombreux. Et par rapport à Paris, où Paris, il y a beaucoup de policiers. Nous, si on demande du renfort, dans les 30 secondes de notre demande, on a 5 véhicules. En Seine-Saint-Denis, vous attendez une heure.
On a une hiérarchie, oui.
C'est sûr que là, il y a un gros problème. C'est étudié savamment par nos têtes pensantes. Est-ce qu'il vaut mieux pas voler que de rouler à 130 au lieu de 110? C'est une question qui se pose, hein. Je la pose.
Bon, 5h45. Toujours rien?
Toujours rien, et le jour s'est levé. Je pense qu'on peut retourner au manège.
Donc on va faire un peu de manège en attendant.
Un peu de manège, ouais, parce que c'est important de...
Vous amuser quand même.
Non, c'est pas un amusement, c'est... C'est pour une bonne connaissance de la topographie de l'arrondissement.
Donc là, voilà, on va faire le manège, c'est-à-dire le manège, c'est descendre une rue très pentue en voiture. Et le manège, parce qu'en fait, c'est une petite rue qui fait le tour d'un square, hein, le square Bolivar, dans le 19e à Paris. C'est fatigant quand c'est calme, en fait, j'ai l'impression, non?
Ouais, ça passe pas vite, ouais.
Ça passe pas vite, et puis on a beau chercher quelque chose, quand il n'y a personne à contrôler, rien à faire, même si on fait toutes les rues de l'arrondissement 20 fois dans la nuit, parce que quand il se passe rien, on fait ça. Hein, on brûle du carburant, hein, malheureusement, mais bon, il n'y a rien, donc on... C'est usant, c'est vraiment usant. On rentre fatigué, mais pas par rapport à la fatigue... physique, comme si on avait une activité folle toute la nuit, mais non.
Là, on est pris d'un vertige, hein. On est pris d'un certain vertige. Imaginons un monde sans voleurs, sans délinquants, sans assassins, mais qu'est-ce qu'on deviendrait? Qu'est-ce qu'on deviendrait, que tout le monde suive l'ordre, soit gentil, courtois, correct? Vous rendez compte, toute bande d'activité qui s'effondrerait. Là, on est pris d'une certaine inquiétude. Chers délinquants, revenez dans le 19e, revenez dans le 19e, que nos amis de la police, dis-je bien, Sébastien, Christophe et Stéphane, au moins aient un peu quelque chose à faire la nuit et puissent répondre à la question que fait la police? Eh bien voilà, pas seulement jouer au manège dans les rues du 19e. Alors, brigadier, chef brigadier, sous-brigadier, au-dessus de ça, il y a le commissaire. Et le commissaire, c'est celui qui commande. Encore faut-il que son commandement soit éclairé. Réponse aux questions de Pascal Pascarillo par le commissaire Kilikini.
Et comment on commande 700 hommes en l'occurrence, il y a quoi? Il y a 700 hommes au commissariat du 19e à Paris?
Non, il y a au commissariat du 19e, on est à peu près 560. Comment on les commande? On les commande pas à la trique, hein. C'est un commandement éclairé qu'on essaye d'avoir. Alors, il y a des fondamentaux à respecter, évidemment. Le commandement, il y a un principe, l'autorité hiérarchique qui doit être respectée. Le commissaire est installé comme le chef de l'arrondissement, le commissaire central, et ses adjoints donc, ont une assise territoriale des commandements. Et il y a une formule classique qui est indiquée lorsqu'il est installé et qui lui confère cette autorité.
C'est quoi cette formule classique ?
Alors la formule classique, c'est « vous lui obéirez pour le bien du service, en ce qu'il vous commandera pour le bien du service ». Donc à partir de là, le commissaire est investi de son commandement.
Et justement, l'art du commandant, c'est quoi ?
L'art du commandement, alors là, c'est vaste programme, hein. Difficile de vous dire. L'art du commandement, c'est de l'autorité. Il faut impérativement d'autorité pour être respecté par ses fonctionnaires. L'autorité est impérative dans ce domaine et il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce terme d'autorité parce que c'est une mise en ordre d'un service. Le service doit être en ordre de marche. On ne va pas comparer un commissariat à une armée, mais l'autorité, elle est indissociable de l'efficacité des services.
Voilà, j'espère que les choses sont claires. L'autorité vue par le commissaire Kilikili. Alors, on retourne avec la BAC, et la nuit n'est pas terminée. Et on est vers la rue de Tanger, la rue du département, qui, dans le 19e arrondissement de Paris, ont une très mauvaise réputation. Il est 3h du matin.
Les matières stupéfiantes, c'est des clients entre guillemets récurrents, hein. C'est toujours à peu près les mêmes qu'on interpelle. Après, on peut travailler avec des gens qui nous donnent des informations et les pseudos indiquent qu'on a en matière stupéfiante. Moi, ça me pose pas un problème du tout. Bah ouais, l'individu a par exemple une barrette de shit ou un caillou de crack. S'il me donne une info qui est correcte, ça ne me pose aucun problème de morale de le laisser avec ça. Alors c'est sûr qu'on va me dire oui, vous avez laissé quelqu'un avec de la drogue et tout, mais c'est l'hypocrisie puisque ça existe depuis des siècles. J'exagère, mais ça a toujours été. Tous les policiers ont un jour fait ça. Et... moi, ça ne me pose pas de problème de morale là-dessus. Quoi.
Ouais, salut nous.
C'est lui qui avait son rot, non ?
C'est pas lui. Ouais, c'est lui.
Il y a un jeune qui vous salue ?
Ouais, on connaît. On les connaît tous. Ça.
Oh Pascal, il est où ton vélo ? Bon, la forme ? T'as l'air speed, non ?
Un petit peu, ouais, j'ai filmé un petit peu.
Ah, un peu angoissé, là.
Un peu angoissé, là. Hein.
Celui qui a la casquette, qui te l'a vendu ? Là, qui repart.
On trouve.
Ouais. Bien ce qui me semblait. Il est chargé encore ? Ouais. Oui, non, tu me dis oui, non, simplement.
Entre autres,
ouais. Entre
ouais.
autres ?
Ah, absolument.
En bouche ?
Entre autres
Emballé. D'accord, et ton vélo, il est cassé alors.
Ouais.
Bon, bah écoute, c'est parfait.
Et ben... Hein
ouais, on retrouve ton vélo.
On retrouve ton
wesh,
vélo.
Wesh. Si on en voit un, on te le dit. Hein.
Je le sentais qu'il vendait lui ce soir.
D'accord, donc là, vous êtes arrêté face à quelqu'un que vous connaissiez.
Là, c'est un toxicomane qu'on a arrêté... reprise et qui est là, bon, il a fumé un caillou de crack qui était pas très bon.
Tchernobyl, ah bon, il s'appelle. Voilà.
Tchernobyl,
c'est le nom qu'il leur donne, radioactivité, truc pas bien quoi. Et qui les rend angoissés. Et
donc là, lui, il a demandé.
D'accord, l'individu juste derrière avec une casquette.
Voilà, il nous a salué, on sait que lui, il vend. Donc là, on va aller le revoir. Le problème, c'est qu'ils mettent ça dans leur bouche, que les cailloux de crack, ils les emballent, ils les conditionnent dans des petits pochons plastiques thermosoudés, qu'ils mettent ça en bouche, et dès qu'on descend de la voiture, hop, ils les avalent. Et donc, ils ressortent ça après une digestion de 10-12 heures, quoi, par des voies où je n'irai pas les chercher.
Et il a déjà disparu.
Et où la c'est des Houdini du temps moderne, parce qu'ils disparaissent.
Ils disparaissent, mais nos fins limiers savent les trouver, de même que sans état d'âme, ils savent transformer un toxico en indique et aller jusqu'au fameux squat qui est à la porte de la Villette, sous sous les périphériques, c'est l'ancien parking des magasins Carrefour.
Alors, soyez pas surprise, hein, je vous dis, c'est un squat qui est occupé par des individus toxicomanes. Donc les conditions d'hygiène, vous verrez, n'y sont pas du tout. Donc nous, on vient souvent dans ce squat parce qu'on sait que des dealers viennent vendre de la cocaïne ici. Donc nous, le but du jeu, c'est d'essayer de tomber justement sur le dealer qui serait en train de dealer aux personnes qui vivent dans ce squat, quoi.
Et là, on est donc au niveau du périph', non ?
Là, le périph' est juste au-dessus. Là, c'est Porte de la Villette. Mmh. Vous pouvez sentir. Ça commence, c'est rien.
Ça sent en fait une odeur, une espèce d'odeur d'excrément et de poubelle.
Ça
a gâché.
Ça a gâché.
Non, ça va pas, ça va pas marcher parce que j'arrive là, non pas une.
Et c'est une décharge ?
Non, c'est eux qui mettent ça. En fait, c'est parking, les anciens parkings du casino, magasin casino, qui sont plus exploités.
Donc vous avez allumé vos lampes, là, vous m'éclairez pour que je puisse voir où je marche.
Et voilà, c'est...
Et là, il y a tous les détritus entreposés.
Il y a 300 mètres carrés, donc on entend les rats bouger. C'est intéressant.
Alors, attendez-moi. Il n'y a vraiment pas de lumière. Hein. Enfin, on est dans le noir. Excepté les petites lumières qu'on voit au fond, là, c'est le périph'.
Donc ils ont fait leurs appartements, hein, comme ils disent.
Hein. En fait, c'est comme si c'était une décharge, mais une décharge en fait couverte.
Donc voilà, bon là, c'est l'individu type cracker, comme on l'appelle, hein, qui fume donc du crack. Hein. Ça se présente comme une petite galette blanche qu'il fume sur un doseur à Ricard.
Et là, ils sont tous les deux en train de...
Là, non, ils vivent ici, donc... passent leur journée à attendre que le dealer vienne leur vendre la cocaïne. Et là, vous les gênez, là, un petit peu vif.
Et je sais pas sur quoi je marche, en fait.
Hein ? Tu vois, on va aller dans un appartement, là-bas.
Complètement dans le noir.
Ah oui, attention. Oui, non, il n'y a pas d'électricité, quand même. Il y a de l'eau.
En même temps, c'est vrai que comme il y a des gens qui habitent, mais... Enfin, on arrive un peu chez eux, mais sauf que c'est un immense parking qui sert de décharge, donc c'est pour ça qu'on pourrait penser que c'est pas habité. Bonsoir, vous vivez ici ?
Avec du monde. Hein ?
Avec la ceinture débraillée ?
Pour jouer aux cartes. Oui.
Pour jouer aux cartes,
à la crapette.
Ah ouais. T'as payé combien ? T'as payé combien ?
Pouilleux des habilleurs.
Pouilleux des habilleurs,
d'accord. C'est toi qui gagne.
C'est moi qui gagne ?
T'as un peu d'avance ? J'ai enlevé la ceinture.
Vous faites quoi, vous ?
J'ai fait quoi ? Que des conneries. Je fais... Je me drogue, déjà eu. Pour subvenir à ma consommation, et ben, je vends mon corps. Quel que soit le temps que ça passe, c'est toujours trop longtemps.
Vous avez quel âge ?
J'aurai 35 ans dans à peine 2 mois.
C'est du monde au bout ou pas ?
Je box, pense que dans...
Le box, non. Il aurait été rouvert ou pas ?
Est-ce que vous appelez le box, un truc comme ça, comme ça. Ouais. Bah, elle n'a jamais vraiment été fermée, hein, de toute façon. Coco. Mais, pardon ?
Coco, il est toujours là ?
Non, mais il y a longtemps... Coco, c'est Coco, vous appelez Coco.
Ouais.
Il y a longtemps qu'on... Ça fait un bon moment qu'on...
On l'a pas vu, hein.
Ouais. Bah, mais depuis...
On l'a arrêté il y a un mois. Ouais, tu dis qu'il faut qu'on le revoie.
Mmh.
Je dis ceux qui t'ont arrêté il y a un mois là. Si tu le revois, faut qu'on discute ensemble.
Bon,
monsieur, bonne nuit. Hein. Oui. Et puis vous jouez à quoi, tarot
Oui, des habillés, monsieur.
Ouais. Allez.
Bonsoir. Et bonne soirée. Ouais, c'est le bruit qu'on entend. Enfin, il y a des petits bruits imperceptibles. Et puis il y a cette espèce de bourdonnement de la route aussi derrière. Enfin,
une bonne trentaine quand même.
Il y a des cas de tuberculose également ici. Ils survivent ici, voilà. Ils font que fumer du crack. Donc un petit caillou de crack, ça vaut 10 euros. Donc ici, les personnes vivent au mieux du RMI. Et puis c'est tout, donc ils survivent.
Mais c'est un autre appartement, là.
C'est pas la forme, toi ?
Hein ?
C'est pas la forme ? Le bébé arrête pas de bouger. Tu veux les pompiers ? Il y a que 6 mois.
Ah, il y a encore 3 mois à tenir.
Il y a encore 3 mois à tenir, hein.
Une femme enceinte ici.
Ouais, 6 mois. Ouais. Là, donc c'est un de leurs appartements donc on peut le voir, il est fermé avec des bouts de tissu séparés, ils font des cloisons en tissu.
des matelas par terre. Donc vous voyez, bah, c'est les vitres cassées, le périph juste au-dessus. Et puis donc une femme enceinte de 6 mois qui vit dans cette atmosphère, quoi. Donc oui, donc cette femme enceinte qui se prostitue pour pouvoir se payer son caillou de crack, enfin ses cailloux de crack tous les jours, quoi.
Elle a quel âge à peu près ?
Voilà, 25 ans, elle. 25 ans, ouais. C'est triste de voir, je vous dis, hein, surtout actuellement en France, voir un lieu comme ici, quoi. C'est la cour des miracles du 21e siècle.
Et c'est comme ça tous les jours, toutes les nuits, là en l'occurrence, avec la BAC du commissariat du 19e arrondissement et à travers tout le pays. Alors, on le sait tout ça, hein, on le sait sans doute, mais on oublie, heureusement ils sont là, c'est leur boulot. Mais quand même, c'est pas un boulot si facile, hein, les pattes dans le cambouis, toute la journée, toute une vie, face à des problèmes pour lesquels on n'est pas préparé, face à des difficultés, il n'y a pas une éducation bien précise, une formation bien précise pour affronter tous ces problèmes, tous ces drames, toutes ces petites et grandes histoires, toutes ces déchéances, ou ces conflits, etc. C'est pas évident, d'où, on va le voir dans la suite des reportages, ou de ce reportage en tout cas de cette heure, une certaine déprime, un certain blues des flics qui est assez courant. Mais pour ce qui concerne l'endroit où nous nous trouvons, le 19e arrondissement, c'est pas loin, c'est dans l'est de Paris, nord-est de Paris, hein, 19e et 20e arrondissement, vous n'êtes pas tous parisiens. Et une tendance déjà lourde depuis pas mal de décennies consiste à évacuer les problèmes hors de Paris. C'est ainsi que les banlieues ont pu ressembler, surtout les banlieues du nord et de l'est de Paris, à la solution, hein, de repousser hors des limites de la capitale, du périphérique aujourd'hui, tous les problèmes et tout, et de faire de ces banlieues de sorte de lieux de rebut, des lieux de relégation sociale, et de charger les municipalités alentour des problèmes dont la belle et digne capitale ne veut plus. La pauvreté, ça se déplace.
La pauvreté se déplace donc vers la Petite Couronne. Donc là, c'est limitrophe de Aubervilliers et Pantin. Donc là, après, bon, bah, ici quelques mois, ça va être un hôtel à la place, un hôtel 4 étoiles, je crois. Donc bah, ils vont encore se déplacer, donc sans doute en banlieue, parce qu'à Paris, il n'y a plus beaucoup d'endroits comme ça.
Bon, y a une migration des individus vers d'autres lieux propices, plus propices. Comment on rend les lieux impropices ? Bah, c'est vrai qu'on a fait une chasse intensive par des actions policières. Tous les jours, faites sur le terrain, contrôler, interpeller les dealers, en fait. Dès qu'on commence à toucher... Ouais, dealers, consommateurs.
C'est une volonté politique qui a été de, entre guillemets, nettoyer Stalingrad, puisque il y a une volonté politique, le quartier est réhabilité également, donc tous les squats, les immeubles insalubres sont rasés ou rénovés. Donc, en ce moment, visiblement, le crack s'est déplacé à Saint-Denis, où bon, bah, il doit y avoir sans doute moins de policiers. Proportionnellement, si on met le même nombre d'effectifs en Seine-Saint-Denis qu'à Paris, il faudrait peut-être tripler, voire quadrupler les effectifs.
Les problèmes sont déplacés. Ouais. En surface, ils ont l'air réglés, mais en profondeur... C'est vrai que nous, je lance un appel, revenez sur le 19, vous nous manquez.
Voilà, déplacer les problèmes, c'est une vieille méthode. C'est la méthode de Giuliani, par exemple, dans Manhattan, qui a repoussé toute la misère de la ville, la misère visible à l'extérieur de la ville en donnant l'impression que tout se passe bien, qu'il a amélioré les choses, qu'il a repris les choses en main, ce qui a notoirement fait monter évidemment le niveau social des habitants, et puis aussi la spéculation immobilière qui va avec et qui pousse dans ce sens-là. Alors si on a relégué, repoussé la misère hors de Paris, on l'a fait également pour la prostitution.
On a beaucoup moins qu'avant.
Ah bon ?
Il y a quelques années, il y avait une prostituée tous les 3 mètres.
Qui s'est créée, qui s'appelle Lusit.
Créée par notre président de la République, à l'époque.
Il était à l'intérieur ?
Il était à l'intérieur, oui. Et donc il a... Le ménage a été fait, entre guillemets. Hein. Ouais, Lusit a été créé, donc c'est un service qui traquait les prostituées, les proxénètes et les clients, surtout Paris. Donc les prostituées se sont mises maintenant dans grandes banlieues, dans les forêts. Il faut être plus dangereux pour elles, ouais. Et puis il faut penser aux clients aussi qui sont obligés d'aller loin maintenant, quoi. Non, je plaisante, mais non, c'est vrai qu'elles sont parties à une trentaine de kilomètres de Paris. Ça doit pas être évident dans les forêts là-bas. Le problème n'a pas été réglé, hein. Il a été déplacé.
D'accord, parfait, les véhicules c'est bon.
Ensuite, un dégrisement.
Dégrisement. Le bouquin du reste c'est où là.
Bon. C'est la relève du poste, hein, là, des deux chefs.
T'as un noté. Hein.
Vous avez fini la nuit et vous commencez la journée.
Exactement, voilà. Moi, c'est Jeannot, tout le monde m'appelle Jeannot.
Jeannot, c'est vous qui êtes le chef de poste aujourd'hui.
Voilà, exactement, oui. Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour.
Vous pourquoi, monsieur?
Ça va pas du tout.
Qu'est-ce que vous avez?
Je peux rentrer chez moi. On m'a mis de la colle dans ma serrure.
Oui.
Et puis, bon, et on m'a frappé dessus. C'est des gars qui habitent chez ma mère en dessous. Tout le monde, ma mère m'a écrit pour mon anniversaire. Et c'est rare qu'après...
Elle habite en dessous de chez vous, votre maman?
C'est son logement.
En même temps, bon, c'est bien qu'elle vous écrive, mais enfin, si elle habite en dessous, vous auriez pu descendre un étage, quand même. Non? Vous la voyez pas? Mais vous n'arrivez pas à descendre d'un étage?
En ce moment, elle s'est mise avec un monsieur à Orléans. Bon, ils sont au moins 4 dans ce logement.
Vous connaissez?
Ils l'ont fait ça à mon frère, qui est plus là. Si ça se trouve, il est en dépression, après 15 ans de...
D'accord.
Et maintenant, ils s'attaquent à moi, ces gens-là.
Oui, je comprends bien.
D'accord. On a dû profiter de sa faiblesse.
L'appartement dont vous me parlez, c'est l'appartement de votre frère, ça.
C'est à ma mère, en fin de compte. Mais c'est mon frère qui y habitait, quoi.
D'accord. Et là, qui c'est qui y habite actuellement?
C'est eux. Et ma mère me prévient qu'il faut que je fasse attention, que ça m'arrive pas, et ça m'est arrivé, vous voyez.
Votre frère, il est où?
Je sais pas, c'est ça qui m'ennuie. Peut-être il est en hospitalisation, ça, je sais pas.
Vous êtes renseigné dans les hôpitaux, savoir s'il est hospitalisé ou quoi?
Et en plus, il voulait rentrer dans la gendarmerie, vous voyez.
Mais quel âge il a, votre frère?
Il a 13 ans de moins que moi. Enfin, il a 40 ans maintenant, parce que moi j'ai 53 ans.
Ça va faire un peu tard, de toute façon, pour rentrer dans la gendarmerie.
Non, mais avant, quand il a voulu.
S'il veut rentrer au moment où nous, on part en fait,
il a 28 ans, il est bien rentré à RATP, là.
Ok.
Vous avez dormi au commissariat?
Oui.
De toute façon, vous portez un véhicule jusqu'en bas de chez vous, puis vous allez rentrer à la maison, tranquillement.
Oui, mais je peux pas rentrer avec la clé, vous voyez. Et en plus, il y avait une femme dans ce logement, parce qu'il a dit, va-t'en vite. C'est-à-dire que ce sont pas clairs, ces gens-là.
Oui, enfin, en même temps...
En fin de compte, le coup de la... Ils sont en train de faire ce qu'ils ont fait à mon frère, ils sont en train de me le faire.
Oui, j'ai bien
tranquillement.
Compris.
Tranquillement.
Bon, écoutez, donnez-moi 5 minutes, je reviens vous voir.
J'ai plus 25 ans, moi.
Oui, bah moi non plus. Donc ça tombe bien, on va pouvoir gérer ça. Bon, à tout à l'heure, monsieur. Je vais envoyer un véhicule chez lui quand même, pour le ramener. On va voir sur place. Par contre, je suis pas sûr du tout qu'il ne puisse pas rentrer chez lui. Enfin, on va voir ça. Parfois, il suffit juste de leur parler, voilà, d'amener quelqu'un, ils sont rassurés, puis ils rentrent. Hein. Faut pas qu'on se montre aussi perturbé qu'eux, mais bon, faut essayer de faire en sorte qu'on soit à leur niveau, à leur hauteur, quoi, on va dire ça comme ça. C'est un pauvre homme qui est un petit peu perdu, quoi, on va dire. Je sais pas pour quel motif il est en invalidité, mais il y a sûrement un motif au moins psychologique. Quoi.
Faut que j'aille faire souffler à...
Attente. Je qui c'est qui t'a demandé ça? L'OPJ. Donc je vais l'appeler.
Bah, bonne journée.
Bon, bah, bon courage.
Merci.
Voilà, Jeannot commence sa journée comme ça. Et ben, ça va continuer comme ça pendant toute la durée du service. Et c'est ce qu'il connaît depuis qu'il fait ce boulot de flic dans ce commissariat du 19e arrondissement de Paris. On appelle ça le bureau des plaintes, mais c'est aussi le bureau des pleurs. Et on voit que le mur des lamentations a des oreilles quand c'est pas celle de Jeannot. C'est celle de Dominique.
Ça, c'est le poste.
Le poste, alors, c'est, au sein
c'est
du celle
que tu transites les effectifs qui rentrent au poste, qui amènent des personnes interpellées et tout ça. Quoi. Et après, c'est dispatché dans les différents services. Le poste, et alors ici, donc, le responsable, c'est le chef de poste. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est moi. Voilà, et plus derrière, bon, les gardés à vue. Donc, avec le détenu qui se trouve là aussi.
Votre prénom ?
Dominique.
Dominique. Votre âge ?
51.
51 ?
Oui. Je suis rentré un peu tard, quoi. Je sais pas, c'est pas ma première vocation, si on veut.
C'était quoi votre première?
Moi, j'étais cuisinier avant.
Et pourquoi vous avez quitté les cuisines?
C'était pour des raisons personnelles, des raisons familiales et tout ça, quoi.
Vous êtes séparé de votre épouse?
Oui, c'est bon, oui.
Attendez, je m'assois à côté de vous, comme ça. Ah, en plus, il y a un grand gilet pare-balles, c'est la première fois que je vois ça. Vous êtes obligé, normalement, de le porter, le gilet pare-balles?
Oui, bah, pour dehors, oui. Bon, là, moi, j'en ai pas besoin, hein. Au poste, en général, non, on n'a pas besoin, quand même.
Bah non, mais avec les idées d'insécurité, on pourrait imaginer que tout est dangereux et que...
Oui, non, mais bon, bah, c'est sûr que maintenant, les gens n'en parlent plus, c'est pour ça qu'on dit qu'il y en a plus. Hein. À mon avis, c'est ça. Hein. Avant, bon, ouais, ça se taisait. C'est-à-dire que les gens viennent plus déposer plainte qu'avant. Automatiquement, il y a plus de dépôts de plainte, donc on constate qu'il y a plus de délinquance par les faits.
Il n'y a pas plus d'insécurité?
Bah non, moi, pour moi, à mon avis, bon, bah non. Ça n'a pas changé, pratiquement. J'en ai marre d'essayer des trucs, moi.
Marc, libre-le à telle heure.
Ça fait 25 ans, hein, que je suis là.
Les premiers moments où vous êtes arrivé à Paris, justement, parce que vous veniez de l'Est.
Donc... Oui, ben, je me suis fait assez facilement, moi. Enfin, j'ai l'habitude de bourlinguer un peu partout, moi, alors de toute façon, ça m'a pas trop gêné. Ouais. Puis on a, à l'école de police, ça va, on a des copains, on sort. En général, quand on vient sur le 19e, il y a pas mal d'affectations, c'est assez nombreux comme effectif. Donc on se connaît déjà un peu, on a fait l'école ensemble, tout ça, donc on n'est pas perdu.
Vous, Dominique, après 25 ans de carrière, combien on a comme salaire en tant que policier?
Un peu plus de 2 400 euros, moi. Ouais, ouais. C'est ça, il y a des primes chez nous, c'est pas des salaires fixes.
Il y a des primes?
Oui, il y a des primes. Oh bah c'est des primes de fidélité, des primes de à l'ancienneté, tout ça.
De fidélité?
Fidélité, fidélisation à Paris. On touche, quand on est de plus en plus longtemps qu'on est sur Paris, on a une prime. Ouais. On appelle ça de la fidélisation.
Comme dans les grands
parce
magasins.
Il y en a beaucoup d'ici.
Qui veulent partir.
Qui veulent partir chez eux, c'est normal. C'est-à-dire qu'avant, on était plus respectés que maintenant. Quoi. La police était plus respectée hein, par les jeunes, hein, tout ça. Hein. Que maintenant, bon, bah. Ils s'en fichent un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Mais surtout les jeunes. Il y a moins d'offres d'emploi et tout ça, c'est ça aussi. Bon, ben, ils traînent dehors et puis voilà. Hein.
Les manuels. Vos parents, ils faisaient quoi, vous?
Mes parents? Ah, mon père, il travaillait en usine et ma mère aussi. Mais pas ici, dans l'Est.
Où? Dans quelle ville?
Héricourt.
Héricourt.
C'est dans le textile. Une usine de textile. Bon, c'est fermé, ça, c'est fini. Il n'y a plus rien. Désir de dire deux mots à lui pour voir. Il va falloir être timide.
Et lui, c'est qui regarde comme ça, étonné?
C'est un collègue.
Moi, je viens de dire au revoir.
C'est un collègue qui est en arrêt pour l'instant, donc il est venu de dire bonjour et puis il rentre chez lui. Voilà. Ah bah, c'est quand que tu viens, alors?
Il faudra un petit service.
Bonjour, je suis venu voir. Vous êtes arrêté?
Oui, tout à fait, oui.
Pour quelle raison?
Problème
de santé?
Ouais, non, j'ai eu un problème avec l'alcool, donc j'ai pris ça au sérieux et. Donc j'étais au Courba. Courba, c'est une association, enfin c'est un centre pour les policiers qui nous aide à arrêter l'alcool. Voilà.
Bonjour.
Bonjour.
Je vais prendre ma clope.
D'accord. Vous êtes sa compagne?
Oui. Un petit peu pressé, c'est pour ça.
Pressé?
Je suis gardien d'AP sur le 19e arrondissement, la brigade J1. J'ai.
Votre prénom?
Franck. Ouais. J'ai 2 ans de service ici. J'ai toujours eu une tendance à chucher, enfin à boire un petit coup de temps en temps. Et en fait, entre le 7 janvier et le 21 février, j'ai sombré, quoi. j'ai sombré à un rythme d'une bouteille et demie de whisky par jour. Et puis donc j'ai avoué tout ici. Je suis parti au Courbat le 25 mars. Là je viens de sortir. Je me sens super bien, j'ai la pêche. J'ai plein de motivation pour ne pas replonger dans l'alcool. Donc maintenant je suis malade alcoolique, abstinent à l'alcool.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait vous? Ils vous donnent des calmants un peu là-bas?
Ouais, c'est une aide thérapeutique et une aide médicamenteuse. Je pense que si j'avais pas eu ce choc psychologique le 7 janvier, eh ben, j'aurais jamais avoué à ma hiérarchie que j'étais alcoolique. Quoi.
C'est-à-dire
J'ai trouvé un collègue qui s'est suicidé au mois de janvier.
Avec son arme?
Avec son arme de service.
Là,
dans les toilettes du central. Je sais pas pourquoi c'est si dur, mais ça reste un sujet un peu tabou. Quoi.
C'était votre copain?
Mon copain, non, c'était un collègue de travail que je voyais tous les jours. Ouais, il s'appelait Laurent.
Et il avait quel âge?
Il allait avoir 30 ans. J'ai fait le deuil, entre guillemets, et puis j'ai eu beaucoup d'aide psychologique et physique, psychologique et psychiatrique, parce qu'il faut oublier que là-bas, il y a un psychiatre. Et j'ai eu des...
J'aime bien se moquer dans la police.
C'est vrai. Dès qu'il y en a un qui parle, on se moque.
Parce que c'est vrai, là, on est en train de parler, et derrière nous, il y a certaines personnes, certains policiers qui font des remarques, qui se moquent, qui disent... Parce que j'ai un micro avec un truc vert, donc ils disent, vous êtes en train de manger une glace à la menthe.
Ouais.
Et j'ai l'impression que ça, c'est tous les jours.
Ouais, non, mais bon, on fait avec. On fume une cigarette et puis voilà, ça va mieux. On boit un café et puis voilà.
Ils sont tous derrière. Oh, putain. C'est super bien, ça.
Non, mais c'est super drôle, quoi.
Et vous, pourquoi vous avez choisi de rentrer dans la police?
Moi, j'ai vu de la lumière, je suis rentré et puis depuis, ça m'a plu et puis je suis encore là.
Mais avant, vous faisiez quoi? Vous êtes rentré à quel
âge? Chaumier, moi.
Chaumier.
Je faisais tout en chaume, je gagnais 3000 euros par mois.
Pourquoi vous avez choisi de changer?
Parce que j'étais amoureux.
Et alors?
J'étais amoureux d'une femme qui m'a dit, bah tiens, je passe mon concours d'ADS. Alors je dis, oh bah attends,
moi aussi. ADS, pour ceux qui ne savent pas, c'est...
C'est adjoint de sécurité. Je dis, oh bah moi aussi, tiens. Et puis, fil en aiguille, et ben, je me suis retrouvé que j'ai eu le concours, pas elle.
Et voilà, vous êtes chaumier. Vous avez un beau boulot, vous mettez du chaume sur les maisons, et puis vous tombez amoureux, et puis vous vous retrouvez. Eh ben, vous vous retrouvez flic, tout simplement, gardien de la paix, pardon, dans un commissariat comme celui-là, enfin, avec les difficultés qui sont évoquées. On évoque assez souvent ces histoires de suicide de policiers, on y reviendra, mais c'est un thème récurrent. Il y a toute cette pression qui s'exerce sur ces gens-là. On le sent, on le voit, on l'entend. Et puis, il y a la proximité de l'arme. On a son arme, donc il y a un passage à l'acte qui s'en trouve d'autant plus facilité. Rencontre avec une femme, enfin, dans ce reportage. Le commandant Adrian, la commandante Adrian.
Major ! Vous y allez ? D'accord, ok. Je suis le commandant Adrian. Je suis chef de service du service de voie publique du 19e arrondissement. Bon, disons que ça se passe bien pour moi parce que c'est quand même pas une nouveauté. J'ai 20 ans d'ancienneté, donc c'est un milieu que je connais particulièrement bien. Familialement aussi, puisque je viens d'un milieu policier, donc c'est... L'atavisme, vous voyez, avait son œuvre.
C'est-à-dire votre père était policier?
Mon père est policier, oui. Il était policier, il est à la retraite. C'est un milieu que je connais très bien, dans lequel je me sens assez à l'aise. Mais c'est vrai que c'est un milieu singulier, disons. Pas particulier, mais singulier. Bah, la singularité, c'est justement ce qui fait notre existence. C'est des hommes et des femmes qui sont une entité, mais qui, dans le milieu professionnel, se regroupent et forment un groupe, quoi. C'est ça, la singularité.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que moi, je commande une entité, le service de voie publique, mais à l'intérieur de cette entité, c'est plein de particularismes, plein de petites... de personnalités qu'il faut prendre en compte en tant qu'individu, mais à un moment... C'est le groupe qui travaille et voilà quoi. On gomme la singularité et c'est le groupe qui prend le relais.
Il y a eu des problèmes au sein du commissariat, enfin pas des problèmes, mais il y a eu des drames, des situations difficiles.
Non, pas récemment, mais bon, ça peut arriver. Hein. Des interventions un peu plus difficiles avec... récemment, on a vécu l'incendie de la rue Riquet avec les deux pompiers qui sont décédés. Et ça, c'est des situations un peu difficiles à vivre, quoi, hein, quand même.
Il y a eu des décès de policiers aussi au sein du commissariat.
Non, pas récemment. Non. Et
Il n'y a pas eu de... Bon, on va parler d'un suicide d'un policier.
Oui, mais bon, c'est difficile. C'est ouais, extrêmement difficile. Hein. Pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde. Je ne connaissais pas bien ce jeune garçon. Et puis, si vous voulez, bon, j'ai eu à le gérer au sein de mon unité. Hein, ça s'est géré. Mais
ça voilà, s'est géré
quoi. Oui.
C'est-à-dire comment on gère un suicide?
Avec la cellule de soutien psychologique, en parlant, voilà quoi. Tout ça, c'est pris en compte. Mais c'est des événements qui sont marquants pour une unité, évidemment, quoi. Mais bon, peut-être, à certains moments, ça, il peut y avoir des petits couacs. Hein. Il y a les personnalités qui ressortent avec leurs problèmes, comme tout à chacun, quoi. Et ça, faut traiter aussi.
Ça finit ta club?
Oui.
Allez, on va aux empreintes?
C'est quoi en face?
N'hésitez pas à fuir la routine quotidienne, faites votre valise, échappez-vous. Réussite, vous avez tendance à céder vite au découragement. Reprenez-vous. Et forme, j'ai le punch. Non, c'est peut-être forme, c'est ponche en fait. C'est
ponche.
Non, j'aime pas le rhum.
Ça me fait penser une vieille blague toute pourrie. Vous savez ce que dit un sanglier quand il croise un cochon? Ça se passe bien la chimio? Est vraiment pourrie. Ouais.
Merci à tous, merci aux gardiens de la paix du commissariat du 19e arrondissement de Paris, merci à ceux de la BAC, merci à tous, Sébastien, Christophe, Stéphane, le commissaire Kilikini et l'ensemble des policiers donc de ce commissariat. Eric Satie, c'était un reportage de Pascal Pascariello. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission, là-bas c'est J'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Julien Chabassu et Gilles Gaillard. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry, qui a la charge également du répondeur de la base où je suis. Le répondeur attend vos remarques, questions, interrogations, coups de gueule et coups de cœur au 01 56 40 37 37.